pour reconnecter Martine.
Hey, comment ça va?
À Karim.
Super, pour vrai, ça fait longtemps.
Et Karim, à la bibliothèque.
Oups, excusez.
Il y a la STM. La meilleure façon de se reconnecter.
Bonjour, bienvenue à Escale 17-18 avec Fulgence Blas au micro et Nicolas Fatman à la technique. Je suis content de le retrouver. Voilà, même si je ne l'ai pas vu vendredi. Salut Nicolas.
Allô.
Comment vas-tu?
Ça va bien.
Passé une belle fin de semaine?
Mais oui, super fin de semaine. Très relax, beau temps.
Oui, il fait encore beau. Quand on va sortir, on aura encore du soleil, là, si je ne me trompe pas. Alors, tout de suite, en première partie d'émission, on va recevoir notre chroniqueuse de nutrition, Luce Thibault, parce que hier on n'a pas travaillé, il y avait une mise à jeu ici en studio, tout est clair, tout marche, c'est ce qui fait que vous arrivez à m'entendre. Je dis bravo à Jean-Sébastien, notre responsable, et toute l'équipe derrière là-bas qui ont fait ce beau travail. Là, on peut faire du direct maintenant. Voilà. Et donc Luce Thibault vient nous parler de vivre en harmonie avec ses rythmes biologiques. Voilà, ça devait se passer hier, comme je l'ai dit. Mais non, c'est aujourd'hui, exceptionnellement. Je dis bien exceptionnellement. Voilà, et en deuxième partie d'émission, je vais recevoir Thomas-Louis Côté, qui est le directeur général de Québec BD pour le 35e Festival de Québec BD. Voilà, alors les amoureux de BD, vous savez ce que c'est, j'ai pas besoin d'aller encore dire bande dessinée. Voilà, on va le retrouver, Thomas-Louis Le Côté, en deuxième partie d'émission. On part tout de suite en musique avec Naman, c'est tout nouveau, tout frais. Sunrise of India.
Ooh, yeah. Ooh, 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 ooh,
Naaman de son dernier album, voilà, voilà ce tube, moi j'appelle ça un tube, hein. Moi c'est mon coup de cœur de l'album d'ailleurs, Sunrise of India, voilà, je pense bien que l'album a été conçu quand il était en voyage, en séjour, en Inde, tout est, ça se dit, ouais, elle est déjà au bout du fil, Louise Thibault.
Attentivement la description de la chanson.
Sunrise of India, c'est le lever du soleil. Ouais, c'est le soleil en Inde. Voilà, c'est ça. Alors, Louise Thibault, bonjour.
Bonjour, bonjour Fulgence Blah.
Oui, vivre en harmonie avec ses rythmes biologiques.
Ben oui, avec le lever du soleil, ça va bien aussi.
Ça va bien aussi, comme tu le dis. Rien n'est constant, tout est rythmique.
Oui, tout est rythmique. En fait, en fait, je vais vous parler des rythmes biologiques.
Oui.
Alors, biologique, ça veut dire quoi? Ben, c'est en lien avec la biologie. Et la biologie, c'est l'étude de tout ce qui est vivant. Hein,
oui.
Tout ce qui vit. Mmh. Des plantes aux animaux à l'humain.
Oui.
Alors, récemment, on a découvert que les rythmes biologiques, en fait, qu'on connaissait depuis des siècles, ils étaient très importants pour la santé humaine, la santé physique et la santé mentale. Donc, dans notre environnement, il y a plusieurs choses qui changent. On dit que notre environnement est changeant, pas toujours pour le meilleur, mais il y a certains environnements qui vont varier de façon rythmique. Alors, l'alternance du jour et de la nuit,
oui.
Exemple le plus flagrant, mais il y a aussi la suite des saisons, hein, qui varie de façon rythmique et de façon prévisible. Il y a des animaux aussi qui nous préviennent de l'arrivée de l'aube. Par exemple, le coq va annoncer l'aube de façon très rythmique et très prévisible.
Oui.
Il y a même, si on regarde autour de nous, là on arrive à la saison de l'été, le jardinage. Alors certains d'entre vous vont peut-être planter des gloires du matin sur leur balcon, dans leur jardin. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça les gloires du matin, croyez-vous?
Expliquez-nous.
Vous connaissez les gloires du matin?
Expliquez-nous un peu là. Avec
alors, ce sont
aussi
de très jolies fleurs dans les teintes de rose, de violet, vert rose, rose bleu, violet. Et ce sont des fleurs qui s'ouvrent le matin.
Ah.
Et puis ensuite, elles se fanent. Et puis le lendemain, il y a de nouvelles fleurs qui s'ouvrent. Et c'est des fleurs qui suivent un horaire bien précis. Et on peut dire qu'il y a un rythme biologique qui opère dans ces fleurs.
Oui. Moi, malheureusement, avant de te laisser continuer, mon balcon prend tellement du soleil tout l'été que mes plantes, toutes les plantes que j'avais mises là-bas sont mortes. Je n'en mets plus.
Parce que tu les arroses pas, peut-être?
Si, je les arrosais, mais c'est le balcon prend le soleil, toute la chaleur de toute la journée.
Bon,
c'est un peu trop.
Tu pourrais essayer quelques gloires du matin.
Je vais essayer.
Oui, pour vérifier ce que je viens de te dire.
Oui, parce que ce balcon-là, je ne me mets pas là souvent d'ailleurs. En été, il fait très, très, sauf en soirée. Sinon, toute la journée, c'est du soleil.
Oui. Est-ce que tu as quelques plantes à l'intérieur de chez toi?
Oui, à l'intérieur, c'est autre chose.
Bon, alors, dans les plantes d'intérieur, il y a aussi des rythmes biologiques. Il y a certaines plantes qui vont dont les feuilles vont être ouvertes le jour et le soir, elles vont se plier. Il y a par exemple la plante qu'on appelle la plante priante, qui est justement une plante dont les feuilles s'étalent dans le jour et puis durant la journée, et le soir, elles se ferment comme si la plante...
Il va falloir que je me mette à les observer.
Oui, c'est ça. Alors, c'est pour expliquer que dans la vraie vie, ce qu'on peut constater autour de nous, c'est qu'il y a une dimension corporelle, il y a une dimension rythmique.
Oui.
Chez les plantes, mais aussi dans notre corps.
Wow.
Alors, dans notre corps, on s'en rend un peu moins compte, mais nous vivons réellement en résonance avec notre environnement. Il y a notre environnement, par exemple, le changement de jour et de la nuit, va rythmer notre éveil et notre sommeil, enfin, nos phases d'éveil et de sommeil.
Oui.
Idéalement, on s'ajuste à l'alternance de jour et de la nuit,
en
étant actif le jour et en étant au repos la nuit.
Mmh.
Mais il y a aussi d'autres rythmes, par exemple, qui vont varier au cours des mois.
Mmh.
Et un de ces rythmes-là, que les femmes connaissent bien, c'est le cycle menstruel, qui se répète à tous les 28-30 jours,
oui,
mois en mois.
Mmh.
Mais ce qu'on voit moins, c'est la température corporelle qui a aussi un rythme qui varie de façon prévisible au cours de la journée. Alors, notre température corporelle, elle n'est pas constante. Il y a des hausses et il y a des baisses de température corporelle. On s'en rend plus ou moins compte, mais ça existe. Notre pression artérielle aussi varie selon l'heure du jour. La composition de notre sang, notre corps sécrète des hormones de façon rythmique et prévisible. Et même dans notre cerveau, il y a des substances chimiques qu'on appelle les neurotransmetteurs qui vont varier de façon prévisible selon des rythmes.
Quel est leur rôle, les neurotransmetteurs?
Les neurotransmetteurs dont on a déjà parlé un peu plus longuement dans des chroniques précédentes.
Oui.
Donc, voilà. Et il y a même certains de nos comportements qui varie aussi dans le temps, dans l'échelle de 24 heures. Par exemple, notre appétit, il n'est pas égal au cours des 24 heures, enfin, ou du moins au cours de notre période d'éveil, il varie. On a aussi, si on y réfléchit comme il faut, si on prend le temps de réfléchir à notre activité mentale, on peut réaliser qu'on n'est pas réellement au pic de notre performance mentale aux mêmes heures de la journée ou constamment au cours de la journée. Il y a des moments de la journée où on se sent plus performant que d'autres. Il s'agit d'y penser. Et il y a des personnes qu'on dit qu'on est personnes du matin ou des personnes du midi ou des personnes du soir. Eh bien, ça existe vraiment. Il y a des types de personnalités dans la population qui vont être plutôt du matin. Autrement dit, le matin, elles vont être plus performantes physiquement et mentalement que le soir. Alors que chez d'autres personnes, ben, c'est l'inverse. Alors, c'est ça les rythmes biologiques.
Oui, mais il y a des gens qui sont performants aussi toute la journée, hein. Il y a des gens qui sont performants toute la journée.
Ça arrive.
Oui.
Mais c'est pas la majorité.
Non, là, c'est clair.
Alors peut-être que toi, tu es performant toute la journée.
Non, quand je me lève le matin, j'ai besoin du temps pour vraiment me réveiller. Je suis pas quelqu'un qui saute du lit et puis hop, la ville. Non, j'ai besoin du temps pour arriver au petit déjeuner. J'ai mon cycle à moi, c'est mon...
Ok.
Voilà, jusqu'à...
Ah, t'as ton cycle, alors t'as un rythme biologique.
Voilà, c'est mon rythme à moi, voilà. Je saute pas du lit et puis tout de suite, la douche, le petit déjeuner, c'est parti là. Non. Je prends du temps pour me réveiller avant d'arriver au petit déjeuner.
C'est ça. Alors, mettre tes petites horloges biologiques en phase avec le début de la journée.
C'est ça.
Et puis je dis tes petites horloges biologiques parce qu'on en a plusieurs des horloges biologiques dans notre corps.
Oui.
Et il y en a aussi dans notre cerveau. Et moi, j'ai travaillé plusieurs années sur les horloges biologiques en lien avec l'alimentation, entre autres.
Oui.
Je vais vous donner un autre exemple c'est de quelle façon est-ce que quand nos horloges biologiques sont pas en phase avec notre environnement, comment ça peut nous déranger? Alors, si vous avez déjà fait un voyage à travers plusieurs fuseaux horaires, Montréal-Bali, par exemple, ou si on se rend en Inde, pourquoi pas, on va avoir un réel décalage par rapport au signal temporel du jour et de la nuit que
l'Asie en général.
Ben oui, c'est ça. On appelle ça le décalage horaire.
Mm-hmm.
Eh bien, ça, c'est dû au fait que nos rythmes biologiques sont en décalage avec l'alternance du jour et de la nuit, tout simplement.
Oui.
Alors, ça peut prendre... chez certaines personnes, c'est relativement facile de s'adapter. Ça peut prendre quelques heures. Par exemple, quelqu'un qui va à Paris va s'ajuster en quelques heures, mais sur d'autres personnes, ça peut prendre quelques jours ou même plus longtemps pour qu'on puisse bien dormir la nuit, se sentir réveillé le jour et aussi avoir faim aux heures habituelles de repas.
Oui. Ah, tu te rappelles, Louis, la semaine passée, quand on parlait de changement d'heure, je t'ai dit que je suis une des victimes. Voilà,
oui.
Du changement d'heure, voilà. Ça, c'est aussi...
Ça va mieux.
Mmh. Oui, ça va mieux. Ça va mieux.
Heureusement.
Voilà.
je vais t'annoncer quand même une nouvelle un peu triste. C'est qu'à mesure qu'on avance en âge, nos horloges biologiques vieillissent elles aussi. Et ça va être de plus en plus difficile pour toi de t'adapter au changement d'heure.
Oui.
sûr que tu vas vieillir.
Ah oui, mais comme toutes les autres parties du corps aussi.
Bah, c'est ça. Voilà. Mais la bonne nouvelle, c'est que peut-être qu'on n'aura plus à subir ce changement d'heure.
D'ici là, oui. D'ici...
aux États-Unis, ils vont aller de l'avant avec ça. Au Canada, je ne sais pas.
J'espère que ça va aller très vite de mon vivant.
Non, tu vas continuer de souffrir encore.
Ah, arrête de me tapisser.
C'est peut-être pas le candidat idéal pour travailler la nuit.
Ah non, j'ai essayé quand j'étais aux études, je me rappelle bien. Bon, ouais, j'ai même pas fait 2 jours, j'ai arrêté.
Ah oui.
Ah non, je suis pas. Non, je travaille la nuit pour moi, c'est l'enfer, quoi.
Ah oui. Mmh. Eh bien, ça peut être l'enfer chez plusieurs personnes. Hein. Il y a plusieurs personnes qui travaillent la nuit. Mmh. On n'a qu'à songer aux hôpitaux. On a besoin de gens qui travaillent pendant la nuit dans les entrepôts. Des camionneurs travaillent la nuit, des chauffeurs de taxi, des policiers, les pilotes d'avion.
Oui.
Mais, donc, il y a beaucoup de travailleurs de nuit.
Ouais, le corps s'est habitué, si je ne me trompe pas. Mm-hmm. Quand je parle de travailler la nuit, c'est travailler jusqu'au petit matin. Ce n'est pas travailler jusqu'à 22h, 21h, 22h, ça je peux le faire.
Non, c'est travailler en fait à l'inverse.
À l'inverse, voilà.
Par des travailleurs de jour. Mm-hmm. Et puis, c'est parfois très difficile d'ajuster ses rythmes biologiques quand on travaille de nuit.
Oui.
Moi, j'ai travaillé avec des chercheurs, ou surtout une chercheuse à l'hôpital Douglas, qui est affiliée à l'Université McGill, qui a étudié, en fait, les rythmes biologiques des travailleurs de nuit, parce que ces personnes ont souvent des problèmes de digestion, des troubles digestifs, des troubles du sommeil et des troubles de caractère, et ce sont des gens qui sont souvent en surpoids.
Oui. Est-ce qu'on peut dire que ça déprogramme l'individu?
Ça déprogramme complètement l'individu. Mmh. Et puis, par exemple, les gens qui vont travailler de nuit pendant une semaine, bon, travailler de nuit, une autre semaine, 2 jours, ils peuvent arriver à se réajuster. Mmh. Mais 2 semaines ou 3 semaines de travail de nuit, suivi d'une semaine de travail de jour, ça rend la tâche très, très difficile à nos horloges biologiques.
Wow.
Ouais. Alors, on est vraiment programmé pour vivre le jour et nous reposer la nuit.
Oui.
Ouais. Et puis, il y a aussi des programmes en fonction des saisons. En fait, il paraît que, selon des statistiques sérieuses, nos rythmes biologiques seraient affectés par la suite des saisons. Alors, il y a des rythmes saisonniers pour les naissances et les décès.
Ah bon?
Par exemple, il y aurait plus de décès à l'automne et à l'hiver qu'au printemps et à l'été, selon certaines statistiques sérieuses.
Ah bon?
Oui, et la vulnérabilité aux accidents aussi varierait selon les saisons, aussi selon la température, mais il y a des variations saisonnières. Et même certaines activités criminelles, il y a des variations saisonnières.
Ah bon? Tout est lié, aux saisons.
Oui. Ouais. Et puis certaines maladies physiques et mentales vont avoir une récurrence plus importante selon la saison. Donc, les rythmes biologiques, c'est très, très important. Ça a un effet très fort sur nos comportements, sur notre bien-être. Et l'alternance des saisons aurait aussi des effets sur différents événements.
Et pour terminer?
Et pour terminer, je peux vous dire que nos rythmes biologiques affectent la façon dont on mange. Et ça, je n'ai pas le temps de vous en parler aujourd'hui, mais ça me fait plaisir de continuer sur ça, en fait sur les rythmes alimentaires qui ont été observés et aussi sur nos différences de perception de goût selon l'heure de la journée.
La semaine prochaine.
La semaine prochaine, à lundi.
Mais, oui, on se retrouve le lundi. On n'est pas.
Lundi. Voilà. Alors, je te souhaite et je vous souhaite tous une très belle semaine.
Merci beaucoup, Louise. À toi aussi.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Les papas de qui ça pas fermer le monde. On va aller. Pépé. mon tempo. Baby coco loco, I show you my coco loco. Dans ce colo, you make me colo colo. Baby coco loco, I show you my choco choco. Baby do it my boy, na dans ma coco loco. Ah coco loco, ah coco loco. On se fatigue pas c'est du coco loco. Ah coco loco, oh yeah, ah coco loco. Na patina hot do coco loco. Coco loco, ah coco loco. De Lomé à Babi, coco loco. Dancing and dancing, na coco loco. USA to London, coco loco.
Voilà, hier c'était le 4 avril, oui, 2022, c'est bien ça. Et le 4 avril 1968, il y a de cela 54 ans, le pasteur Martin Luther King a été abattu d'une balle devant sa chambre de motel à Memphis aux États-Unis. J'en parle aujourd'hui parce que hier on n'était pas en onde. Alors là, il faut que j'en parle, donc c'était l'anniversaire de sa mort d'ailleurs, 54 ans. C'est passé un 4 avril, voilà. Les Américains et puis bon, le monde entier était d'ailleurs et... Ils ont découvert avec stupéfaction ce crime odieux perpétré contre des ardents défenseurs de la lutte contre la discrimination raciale. Voilà, c'était un meurtre gratuit d'ailleurs. C'était un des bastions de la lutte pacifique contre la ségrégation qu'on a fait taire. Voilà, à l'époque, un homme a été arrêté, jugé, condamné. Mais était-il vraiment le coupable? C'est la question. Bon, je veux simplement souligner l'anniversaire de sa... Ouais. De son départ, de sa mort, le pasteur Martin Luther King, le 4 avril 1968. Si on est en non hier, j'allais en parler, c'est ce qui fait que j'en parle aujourd'hui, même si aujourd'hui, c'est le 5. Voilà. Et voilà. C'est il a. Je ne sais pas. Que la terre lui soit tout le temps légère, que son âme de repos toujours en paix, il a servi. Il y a eu de nombreuses inquiétudes, zones d'ombre qui planent encore sur cette affaire. Ouais, ça, il faut le dire. Bon, mais j'ai pas assez de temps, je voulais faire un petit clin d'œil à la famille Martin Luther King, parce qu'il y a des descendants qui vivent encore. 4 avril 1966. Et hier, c'était le 4 avril 2022, 54 ans. Corrigez-moi si je me trompe en calcul. Hein. Alors, on va en musique pour terminer cette première partie de l'émission, rapidement avant de recevoir notre invité. En deuxième partie d'émission qui va nous parler du 35e festival de BD à Québec. Voilà, Econ avec la complicité de Farouko, Solo Tu.
Yes, my guy Farouko. Que tú, oh, yeah. Ay, yeah. Ay,
aquí no sale.
Solo tú, nadie más que tú.
Avec la complicité de Farouko, Solo Tu. Restez à l'écoute. Après la petite pause publicitaire, la première pièce musicale, je vais recevoir Thomas-Louis Côté, directeur général de Québec BD pour le 35e festival Québec BD. Allez, restez à l'écoute. À tout de suite.
Pour reconnecter Diego.
Salut tout le monde, ça va bien?
À ses collègues.
Hey, allô le petit nouveau.
Et ses collègues, à Diego.
C'est parce que ça fait 7 mois que j'ai commencé.
Il y a la STM, la meilleure façon de se reconnecter.
Avec Fulgence Blas.
I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground. I'm hearing what you say, but I just can't make a sound. You tell me that you need me, then you go and cut me down. But wait, you tell me that you're sorry, didn't think I'd turn around. You say that it's too late to apologize. Taking all the chance.
C'était Timbaland avec la complicité de One Republic, Apologize. Notre invité déjà au bout du fil, voilà, Thomas Nicolas Côté, directeur général de Québec BD. Voilà, il va nous dire, parler de ce 35e festival. Ça fait 35 ans que ça existe. Alors là,
lui,
il est à la tête de l'organisme, voilà, depuis 2005. Ça ne fait pas deux jours, hein?
Non, ça fait quelques temps maintenant.
Bonjour Thomas Louis Côté.
Bonjour.
Merci d'avoir eu le temps de venir. Nous sommes très honorés de vous avoir pour nous parler de ce 35e festival. Et avant de vous laisser le micro, vous avez été nommé au grade de chevalier dans l'ordre des arts et des lettres, l'une des principales distinctions parmi les quatre ordres ministériels de la République française. Bravo à vous.
Ben merci. Félicitations. Merci. Non, c'est un bel honneur qui est arrivé avec surprise, mais ça a été une belle surprise.
Ouais, une distinction pour récompenser votre parcours, hein, et plus particulièrement votre contribution au rayonnement au Canada d'auteur français de bande dessinée. Merci à vous. Grâce à vous, les auteurs de bande dessinée francophones ne vont pas être oubliés. Voilà. Voilà, et puis non seulement ça, c'est pas seulement ce qu'il y a, depuis 2005, voilà, 9e art. Pour ceux qui ne le savent pas, la BD, c'est le 9e art, hein. C'est comme le cinéma, 7e art, il y en a plein, la liste est longue. Alors, et puis non seulement ça, le fait de contribuer au rayonnement de la bande dessinée et de ses artisans, vos actions ont déjà été récompensées par le prix de développement culturel du Conseil de la culture des régions de Québec en 2013 et le prix de l'Institut canadien en 2017. Conjointement, bien sûr, avec Québec BD. Bravo à vous et toute l'équipe en arrière.
Ben merci. Oui, parce qu'effectivement, c'est pas quelque chose qui se fait seul. Donc, tout le monde y a travaillé fort.
Ah oui, et ça commence demain.
Oui, déjà.
Ça va vite. Du 6 au 10 avril. Rencontre, animation, atelier, exposition, spectacle. Parlez-nous un peu de ça. Comment ça se passe? Comment vous sentez à la veille de l'événement comme ça?
Ah, ben il y a une fébrilité de retomber dans un événement avec public, parce que ça fait quand même deux ans là où on a annulé en 2020, on a fait une édition virtuelle en 2021, donc là de retomber avec du public,
oui.
On a très hâte de retrouver les gens, de voir comment ça va se passer, tout ça.
Oui.
Donc j'ai très hâte demain matin de voir les premiers festivaliers puis les premiers visiteurs du Salon du Livre arriver puis venir dans nos espaces, là, parce que c'est ça, on a une le festival est présent dans plusieurs lieux, donc on a été en presque une vingtaine de lieux à Québec avec des expositions.
Plus d'une vingtaine de lieux, c'est ce que j'ai lu, j'étais surpris d'ailleurs, plus d'une vingtaine de lieux.
Donc on est vraiment un peu partout dans la ville.
Oui.
Et on a toute la portion kiosque et tout ça, c'est au Salon du Livre de Québec.
Oui.
Donc là, on est en train de faire finaliser le montage de ça aujourd'hui.
Oui.
Et c'est vraiment le fun là, de voir tout ça aller, puis demain retrouver les auteurs, les amis et tout qui vont être présents. Fait que ça, j'ai très hâte.
Oui. Mais comment ça se passe pour les BDistes? C'est vous qui les invitez ou bien c'est eux qui vous présentent leurs produits afin qu'ils puissent être invités?
Non, mais l'idée, c'est de faire la promotion des artistes professionnels d'abord. Donc, on travaille avec des auteurs qui sont publiés. Donc, on travaille avec les maisons d'édition ou directement avec les auteurs là, pour s'assurer qu'ils soient présents à Québec.
Oui.
Puis, on a un volet aussi pour les auteurs émergents, donc les auteurs qui débutent. Donc, où là, on essaie de voir comment leur offrir une vitrine. Donc, par exemple, à l'intérieur du Salon du Livre, on a un kiosque dédié aux auteurs émergents et à la bande dessinée auto-éditée.
Oui.
Donc ça, c'est des vitrines que l'on offre. Mais sinon, on travaille vraiment avec les éditeurs puis les auteurs pour s'assurer qu'ils soient bien représentés à l'intérieur d'un Salon du Livre là, pour faire la promotion de leur bande dessinée.
Oui, oui, oui. Qu'est-ce que... Aussi, moi, si j'étais quelqu'un qui bricolait chez lui, qui avait son crayon, des papiers, qu'est-ce qu'il faut pour être nommé comme professionnel de BD, de bande dessinée?
Mais faut idéalement publier, donc déjà faire de la bande dessinée pour que les albums soient publiés.
Oui.
Ça peut être par un éditeur professionnel ou quelqu'un qui fait de l'auto-édition. Il y a des gens qui font de l'auto-édition et qui sont considérés comme professionnels parce qu'ils en font depuis un certain temps, qui ont quand même une pratique reconnue.
Oui.
Donc, la notion de professionnel vient avec la production. Donc, si quelqu'un fait de la bande dessinée à la maison, ben l'idée, c'est d'avoir une tribune pour se faire voir, donc que ce soit sur le web, que ce soit en faisant des auto-éditions ou autre.
Oui.
Pour après ça, commencer à pouvoir frayer avec le cercle des auteurs de bande dessinée. C'est pas un club privé, là, mais...
Non, je ne pense pas.
D'aller dans les événements, de rencontrer des gens et tout ça. Là.
Non, c'est pas un club privé, sinon on n'allait pas parler de festival.
Exact.
Alors là, vraiment, je me dis... Oh là, et puis, moi-même, je ne sais même pas, il va falloir que je vois un peu mon emploi du temps, là, pour savoir si... Je n'ai jamais assisté à un festival de BD. Ouais, j'adore.
C'est vrai. C'est l'idée du festival, dans le fond, dans le cadre de ce qui est présenté au Salon du Livre, c'est essentiellement des démonstrations, des ateliers de dessin et tout.
Oui.
Pour ce qui est de des activités à l'extérieur, ben là, on tombe plus dans la performance. Donc, il y a des grands entretiens, des grandes entrevues devant un public.
Oui.
Il y a aussi des mélanges improvisation et bande dessinée, musique et bande dessinée. On fait un spectacle de conte et bande dessinée, théâtre et bande dessinée. Donc, il y a moyen de s'allier à différentes disciplines pour créer des façons de découvrir le dessin puis la bande dessinée.
Oui, mais quand j'ai vu l'affiche d'ailleurs, je me suis dit, donc, c'est pas seulement les BD qui seront, il y aura des rencontres, des animations, des ateliers, des expositions et puis des spectacles aussi. Hein. Voilà. Alors, pour ceux qui veulent tout savoir, allez-y sur le site de Festival Québec BD en un seul mot, pas d'accent, rien du tout, en un seul mot.com. Vous allez avoir toute la programmation là-bas. Je ne sais pas si on a encore quelques minutes là avant de passer à la prochaine pièce musicale, avant de vous revenir. Voilà, le pavillon de la BD à l'espace Cassantième. Parlez-nous un peu de ça.
C'est un beau projet, ça. C'est dans le fond, la ville de Québec nous a confié un bâtiment qui s'appelle l'Espace 400e,
oui,
qui est situé dans le Vieux-Port de Québec. Mm-hmm. Et c'est un bâtiment où on a fait un programme d'exposition. Mm-hmm. Donc, pendant tout le mois d'avril jusqu'au mois d'août, on va avoir des expositions de bandes dessinées qui vont être présentées là. Donc, on commence par un programme de 4 expositions, mais il y en aura plus qui vont s'ajouter en cours de route. Il y aura un renouvellement d'une partie de la programmation également en juin. Donc, c'est un lieu qu'on veut animer, qu'on veut présenter, puis que j'espère va plaire au public.
Et que vous avez renommé d'ailleurs le pavillon de la BD.
Exact. Ouais. L'idée, c'est de donner quand même... un nom, une appellation au lieu pour être certain de pouvoir attirer le public. Là.
On dit merci à la ville de Québec
pour
cette collaboration.
C'est,
voilà.
c'est une super opportunité qui nous a été offerte d'occuper ce lieu-là. Puis ça nous permet de présenter des expositions. Ben, il y a 4 expositions donc, qui sont présentées qui vont être présentées pour le moment.
Oui.
Donc, une exposition sur Dante, donc la Divine Comédie de Dante, une exposition qui a été montée avec l'Institut culturel italien de Montréal.
Oui.
De très, très beaux dessins. Ensuite de ça, on a sur l'album René Lévesque, donc quelque chose comme un grand homme, une exposition qui présente les différents volets de cet album-là. Et on a une exposition qui s'appelle « Les coulisses d'animation », donc va présenter les archives des studios Belle Vision.
Ne dites pas tout. On fait une pause musicale.
Okay. Pas de problème.
On fait une pause musicale et puis on vous revient.
Parfait.
À tout de suite.
Ouais. Au revoir.
Ces mots que tu veux attendre, je mets ça dans ma bouche, sur ta bouche. Dehors, cette lourde pluie qui m'attend, si sombre. est si dur. Il y a des moments où c'est mieux de ne pas toucher. Il y a des moments où c'est mieux de ne pas toucher le silence. Il y a des moments où c'est mieux de ne pas toucher. Il y a des moments où c'est mieux de ne pas toucher le silence. Mon silence. Demain quand je pars, je te laisse dormir. Je vois seulement un peu de ton odeur que je trouve dans tes cheveux, que je trouve dans ton lit. Je passe sans rien dire. Dehors il y a cette lourde pluie qui a vu ton corps si pâle. Maintenant elle essaie de laver cette ville. Mais cette ville est beaucoup trop sale. Il y a des moments où c'est mieux de ne pas toucher. Il y a des moments où c'est mieux de ne pas toucher le silence. Il y a des moments où c'est mieux de ne pas toucher. Il y a des moments où c'est mieux de ne pas toucher le silence. Mon silence.
Stéphane Aicher, le silence. Ouais, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, nous sommes toujours avec notre invité, Thomas Louis, côté directeur général de Québec BD, pour nous parler du 35e festival Québec BD. Oui, qui commence demain. Si vous voulez avoir toute la programmation, allez-y sur le site. C'est festivalquebecbd.com. Vous allez avoir toute la programmation qui parle des rencontres, des animations, des ateliers et des expositions spéciales. Alors, de retour avec notre invité, du 12, d'ailleurs, jusqu'au 12 juin, d'ailleurs, jeunes et moins jeunes, là, pourront aussi découvrir l'exposition Immersion dans le monde de Petit Poilu.
Oui, donc Petit Poilu, qui est un personnage populaire dans la bande dessinée jeunesse, et qui, donc, on a une exposition qui nous vient des éditions Dupuis, qui présente le personnage et qui permet de découvrir, d'en connaître un peu plus sur lui. Donc, ce sera l'occasion pour toute la famille de venir voir ça.
Oui.
Comme je mentionnais, on a des coulisses d'animation qui est présentée aussi, qui s'adresse aussi à toute la famille.
Oui.
Qui est une exposition sur les dessous des films d'animation des studios Bellevision. Donc, Studio Bellevision qui a présenté des films qu'on connaît tous, là, si on connaît un peu Ciné-Cadeau,
oui.
Télé-Québec, donc que ce soit Astérix et Cléopâtre, les 12 travaux d'Astérix, Tintin et le lac aux requins.
Oui.
Donc là, ça va être l'occasion de voir tous les coulisses de ces films-là avec des pièces originales qui proviennent des archives des studios Bellevision. Fait que pour nous, c'est vraiment un très grand honneur de pouvoir avoir ça. Parce que
oui.
C'est la première fois que ça va être présenté à Québec.
La première fois, donc les bénéfices seront gâtés, hein?
Ah, ben oui, puis c'est vraiment quelque chose qui est rare. Donc, on est très, très heureux de pouvoir l'offrir, là.
Voilà. Merci à vous. Merci à toute l'équipe parce que c'est tout un travail durant toute l'année. Hein. Même si le festival, c'est pas toute l'année, mais vous travaillez toute l'année avec ça, toute l'équipe, pour
mais
pouvoir mettre ça.
Cette année, ça a été assez particulier pour ça. C'est que, étant donné que la situation de la COVID qu'on connaît tous a évolué, mais on a eu beaucoup moins de temps qu'à l'habitude pour monter l'événement. Et pourtant, c'est ajouté à ça des choses comme l'espace 400e qui, tout à coup, nous rajoute de belles opportunités, une belle semaine qui va durer au-delà du temps du festival. Donc, c'est là jusqu'au au 21 août. Donc, ça nous amène quand même assez loin.
Wow! Génial, génial. Bravo. Et puis, quand je lis une de vos déclarations, on ne peut qu'être heureux d'être à nouveau au Silk afin d'ouvrir au public, après deux présentations essentiellement en ligne, une vitrine sur le 9e arc-hier représentatif de la diversité actuelle de ce genre qui gagne beaucoup d'adeptes. C'est vous qui le dites.
Oui. Oui.
Une belle vitrine pour le 9e A au Silk.
Oui, mais c'est ça. Nous, on essaie, comme je disais, d'avoir de mettre en valeur la bande dessinée à travers différentes propositions.
Oui.
Et le fait de pouvoir, au Salon du Livre, inviter beaucoup accueillir beaucoup d'auteurs, de participer avec eux, leur faire offrir des animations, des rencontres d'auteurs et tout, ça permet justement de montrer les différents visages de la bande dessinée, donc de montrer tout ce qui se fait au Québec actuellement.
Des auteurs reconnus comme Michel Arbagliati, Julie Ducey, Alex Svian, tout ça, ils seront présents ou bien ils seront présenter leur première œuvre d'ailleurs de bande dessinée, oui, bien sûr.
Ben pour certains, c'est leur première œuvre. Donc, il y a plusieurs auteurs. Donc, la bande dessinée au Québec se porte relativement bien, voire très bien. Donc, il y a quand même plusieurs nouveaux auteurs qui apparaissent à chaque année. Donc, pour nous, c'est intéressant de les avoir. Et aussi, il faut dire que depuis 2 ans, donc depuis mars 2020, il n'y a pas eu tant d'événements autour du livre, autour de la bande dessinée, qui ont permis aux auteurs qui ont sorti des livres de les présenter. Donc, pour nous, d'accueillir ces auteurs-là dans le cadre du festival, ben, ça permet d'offrir justement une vitrine qu'ils n'ont pas eu dans les derniers temps. Là.
Oui.
C'est essentiel.
À cause du maudit virus. C'est comme ça que je l'ai surnommé. Le maudit virus. Oui, le maudit virus. Et puis, cette partie qui me plaît encore, c'est que vous arrivez cette fois-ci à faire déplacer les BDistes internationaux.
Mais on a quelques auteurs internationaux, effectivement. Donc, on a des auteurs d'Espagne, des auteurs d'Allemagne et de Belgique et de France. Mais c'est beaucoup des auteurs qui sont dans un contexte de résidence. Donc, ils viennent passer un mois à Québec. Donc, ça permet de vraiment vivre Québec, vivre le Québec.
Oui.
Puis, on a quelques auteurs comme Juan Díaz Canales, qui est un auteur espagnol, Teresa Valero, qui est sa conjointe, ou Zelba, qui est d'origine allemande.
Oui.
Donc, eux viennent spécifiquement pour le festival. Donc, eux, c'est de la visite rare, c'est leur première visite au Québec, et on est très, très heureux de les accueillir.
Et combien qui viennent pour la résidence?
Actuellement, il va y avoir 4 auteurs en résidence. Malheureusement, il devait en avoir un 5e, mais il n'a pas eu son visa pour venir à Québec.
Oui.
Donc, ça ne pourra pas avoir lieu, mais il y a 4 auteurs en résidence pour tout le mois.
Oui.
Puis, j'ai une autre auteure qui arrive en mai. Donc, on va avoir 5 résidences dans une courte période.
Ah oui. Non, je suis très content que votre festival, votre organisme soit connu mondialement, quoi. Et je pense bien que vous êtes lié partout à travers le monde entier, les autres festivals dans les autres pays aussi. Vous vous déplacez aussi pour aller rencontrer les gens, pour aller faire de nouvelles découvertes. Ça se passe comme ça. Il y a combien de festivals à peu près, de grands festivals? Il y a celui d'Angoulême qui vient de prendre fin.
Oui, donc ça, c'est le plus gros en Europe.
C'est le plus gros en Europe, oui.
En France, en Belgique, on parle de 350 à 400 festivals de bande dessinée en Europe francophone. Donc, c'est beaucoup.
Oui.
Et c'est vraiment d'ampleur complètement différente. Donc, il y a des plus petits festivals dans les villages qui comptent là-dedans.
Oui.
Mais sinon, il y a des festivals de bande dessinée. C'est un peu l'avantage d'un endroit comme Angoulême aussi, c'est qu'on rencontre des gens de partout. Donc, là-bas, on a rencontré des organisateurs de festivals de Pologne, d'Allemagne, du Danemark, d'un peu partout. Donc, il y a des festivals de bande dessinée vraiment un peu partout dans le monde. c'est intéressant de faire partie de ce réseau-là.
Oui. Voilà. Ce qui se fait que je dis, quand vous rappelez, je dis que vous travaillez toute l'année, c'est pas seulement le moment du festival, même si le festival, c'est toujours en cette période. Est-ce que vous allez garder le côté virtuel? Ou bien c'est seulement la présence?
On a une activité virtuelle cette année qui est une activité de yoga en bande dessinée, qui est le vendredi matin. Mais sinon, on a vraiment essayé de miser sur le présentiel cette année. Donc, vraiment l'idée de voir des gens, de rencontrer des gens, d'accueillir les auteurs. Bon, on a essayé de se limiter au niveau du numérique là, wow. À ce moment-là.
Pour les dernières 30 secondes qui nous restent, un dernier mot à ceux qui nous écoutent.
Ben, venez nous voir, venez à Québec faire un tour, venez rencontrer les auteurs, venez au pavillon de la BD. Je pense que ça vaut la peine de venir faire un tour. Puis comme c'est là jusqu'au 21 août, le pavillon, il n'y a pas tant d'excuses d'excuses pour ne pas venir.
C'est ça. Et puis c'est l'été, il va faire beau, on aura du soleil, il y a moins de restrictions sanitaires, on peut aller... Voilà, mais toujours avec son masque dans sa poche ou bien dans son veston.
Oui.
Voilà, dans son sac pour ne pas... Quand il y a assez de monde, il faut le mettre quand on va à l'intérieur surtout. Merci beaucoup à vous.
Merci.
Je suis ici.
Au plaisir d'une prochaine discussion.
Ah oui. Thomas, lui, côté directeur général de Québec BD, qui démarre demain, 35e festival du 6 au 10 avril. Merci et bon festival à vous.
Merci à vous.
Au revoir.
Comme si je n'existais pas, elle est passée à côté de moi, sans un regard, reine de Saba. J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Voici les perles, les bijoux, aussi au retour de ton cou, les fruits bien mûrs au goût de miel. Ma vie, Aïcha, si tu m'aimes.
Merci à toi Nicolas, on se retrouve demain. On dit merci à Luce Thibault qui avait nous parler des rythmes biologiques, à vivre en harmonie. Et puis merci à notre invité Thomas, lui côté directeur général de Québec BD, qui avait nous parler du 35e Festival Québec. Merci à vous, chers auditeurs, auditrices, de votre fidélité. Voilà, on se retrouve demain sur les ondes du Canal M, la radio de Buzévois, à la même heure, oui, à le même studio, avec le même personnel. Et je vous dis Ciao.
Pour reconnecter Simon et Pierre-Luc à...
Deux relish moutarde puis le liqueur.
Et surtout, à ça...
Yeah! Voyons, j'ai plus de voix.
Il y a la STM. La meilleure façon de se reconnecter.